VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Bien d'accord, très heureux, N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par la course à la Maison Blanche ici aux États-Unis. Le milliardaire Donald Trump est maintenant considéré comme le candidat présumé du Parti républicain au présidentiel de novembre après sa victoire majeure mardi aux primaires dans l'État d'Indiana. Succès retentissant qui a conduit son principal rival, le sénateur Ted Cruz, à jeter l'éponge. Les détails avec Georges Léonard Sagnot.
Les chaînes américaines ont donné Donald Trump vainqueur dès la fermeture des bureaux de vote. Ted Cruz, le menteur, a toujours dit qu'il gagnerait et devait gagner l'Indiana. S'il perd, il doit se retirer et arrêter de gaspiller de l'argent et du temps, avait écrit Donald Trump sur Twitter. Un message bien saisi par Ted Cruz qui finalement a décidé de jeter l'éponge.
I've said that I would continue on as long as there was a viable path to victory. Tonight, I'm sorry to say, that path.
Depuis le début, j'ai dit que je continuerai aussi longtemps qu'il y aura une voie vers la victoire. Ce soir, je suis désolé de le dire, nous suspendons notre campagne.
Donald Trump n'a pas encore atteint la majorité des 1237 délégués requises pour décrocher l'investiture de façon automatique, mais la probabilité qu'il y parvienne d'ici aux dernières primaires du 7 juin a fortement augmenté. Dans son adresse, le magnat de l'immobilier a tenu à rappeler qu'il a passé toute sa vie à compétir.
Toute ma vie, j'ai été en compétition, différentes compétitions, qu'il s'agisse de sport ou des affaires, ou comme maintenant depuis 10 mois, la politique.
Chez les démocrates, Bernie Sanders a remporté la primaire de l'Indiana devant Hillary Clinton, qui se prépare cependant au probable match contre Donald Trump à la présidentielle de novembre prochain.
Afrique maintenant, République démocratique du Congo. Au moins 16 civils ont été tués cette nuit lors d'une attaque dans un village de la région de Beni dans le nord Kivu. Le massacre a été confirmé par Bernard Amissi Kalonda, l'administrateur du territoire de Beni. Cette région est le théâtre de massacres récurrents selon des responsables locaux et l'ONU. Les rebelles ougandais de l'ADF y sont régulièrement accusés d'être les responsables de tueries et d'attaques contre des civils. Selon l'ONU, ces exactions ont coûté la vie à plus de 500 civils depuis 2014. RDC toujours, des milliers de Congolais ont rendu ce matin un dernier hommage à leur idole, le chanteur Papa Wemba, lors d'une messe en la cathédrale de Kinshasa, avant son inhumation prévue plus tard aujourd'hui dans la périphérie de Kinshasa. Depuis 3 jours, comme un seul homme, le peuple congolais, l'Afrique et le monde pleure celui qu'il est convenu d'appeler le père de la rumba congolaise, a déclaré lors de cette messe l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo, saluant également les mérites d'un vaillant musicien. 6 évêques, une 60aine de prêtres, des membres de la famille de Papa Wemba, des officiels, des célébrités et aussi des anonymes étaient présents en la cathédrale Notre-Dame pour cette messe à la mémoire du chanteur. Élection présidentielle du 10 avril 2016 au Tchad. Le Conseil constitutionnel tchadien a finalement rendu son verdict ce mercredi au petit matin. Il proclame le président sortant Idriss Déby Itno vainqueur avec 59,95% des suffrages pour un taux de participation de 65,95%. Le Conseil rejette la requête introduite par 6 candidats de l'opposition demandant l'annulation du scrutin. Plus de détails avec notre correspondant N'Djamena André Kodmajingar.
2 semaines après le résultat provisoire publié par la CENI, Commission électorale nationale indépendante, résultat contesté par 6 candidats de l'opposition, le Conseil constitutionnel rejette en bloc la requête introduite par ces derniers demandant l'annulation de ce scrutin pour une question de forme et confirme la victoire du président sortant au premier tour.
Idriss Déby Itno, 2,219,352 voix, 59,92%. Kevzabo Salé, 473,074 voix, soit 12,77%. Déclare le candidat Idriss Déby Itno élu au premier tour président de la République du Tchad.
André Kodmajingar N'Djamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, Sénégal, le préfet de Saint-Louis a interdit la tenue de l'édition 2016 du festival de jazz organisé depuis 25 ans dans cette ville du nord-ouest du pays, en invoquant des raisons de sécurité. Mais les organisateurs ont affirmé hier être en discussion pour son maintien à 8 jours de son ouverture. Des attentats djihadistes ont frappé ces derniers mois plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Sénégal, jusqu'à présent épargné, a cependant renforcé la sécurité dans de nombreux lieux publics, comme les hôtels et les administrations. Si les autorités maintiennent l'interdiction du festival, ce serait la première fois et ce serait un coup dur pour l'économie locale, a souligné le préfet de Saint-Louis, indiquant que les hôtels affichaient déjà complet cette semaine pour les festivaliers. En Mauritanie voisine, le président Mohamed Ould Abdelaziz, en visite à Nema, a annoncé dans un meeting populaire l'organisation très prochaine d'un référendum constitutionnel. Un référendum qui portera sur la suppression du Sénat et la mise en place de conseils régionaux. Pourquoi cette révision constitutionnelle? Comment l'opposition a-t-elle réagi? Les explications de Brahim Dia, notre correspondant en Mauritanie.
Le Parlement mauritanien est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Cette seconde chambre compte 56 sénateurs. Pour le chef de l'État, elle retarde le processus de vote des lois. Cette justification de la suppression du Sénat ne convainc guère une partie de l'opposition. Mahfoud Ould Betta est le président du pôle politique du Forum national pour la démocratie et l'unité, FNDU, un forum qui regroupe une quinzaine de partis. Il reconnaît le peu d'utilité du Sénat, mais rejette la justification donnée par le président de la République.
Contrairement à ce que a dit l'actuel chef de l'État, il a justifié la suppression du Sénat par un retard dans l'adoption des textes. Or, il n'y a jamais eu de retard en ce qui concerne le Sénat. Il a été toujours extrêmement prompt à adopter les projets qui lui sont soumis.
Derrière cette volonté de suppression du Sénat, le FNDI perçoit d'autres motivations. Mahfoud Ould Betta.
C'est une initiative qui rentre dans le cadre de l'agenda de l'actuel détenteur du pouvoir, qui envisage donc de garder le pouvoir d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre.
Mohamed Ould Abdelaziz a été en effet élu président de la République en 2009 pour un mandat de 5 ans. En 2014, il a été réélu. La Constitution lui interdit de briguer un autre mandat. Mais récemment, 3 de ses ministres ont publiquement émis l'idée d'une réforme constitutionnelle visant le déverrouillage de la limitation du nombre de mandats présidentiels. En réaction aux déclarations de ses ministres, le FNDU a rompu tout contact avec le pouvoir. Pour renouer le dialogue avec le régime, les partis du forum ont exigé du chef de l'État une déclaration claire sur sa volonté de respecter les dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à 2. Cette exigence a-t-elle été satisfaite dans le discours de Mohamed Ould Abdelaziz à Nema? Réponse de Mahfoud Ould Betta.
Il est resté dans le flou total en disant que lui, il va approfondir la démocratie. Mais c'est une démocratie qu'il conçoit lui-même comme étant nécessairement le lieu de son maintien au pouvoir et de la perpétuation de l'actuel pouvoir en place.
Dans l'opinion publique, l'annonce de la suppression du Sénat a été plutôt bien accueillie. Cette chambre est en effet jugée coûteuse et inutile par beaucoup de Mauritaniens. Brahim Dia, à Nouakchott, pour La Voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Retour à l'actualité aux États-Unis. Le président américain Barack Obama se rend aujourd'hui dans la ville de Flint, dans le Michigan, théâtre d'un scandale de contamination d'eau qui a déjà entraîné la mise en accusation de 3 responsables gouvernementaux. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Pour les habitants de Flint, cette visite est une nouvelle occasion, et non les moindres, d'exposer au monde extérieur leur crise. La présence de Barack Obama remettra en effet au devant de la scène un cauchemar qu'ils endurent depuis déjà 2 ans. C'est l'impression partagée d'ailleurs avec la chaîne NBC par ses résidents qui ont été directement affectés par la contamination au plomb du système de distribution d'eau potable dans la ville. Le 20 janvier, le président américain était dans le Michigan, mais il avait opté pour une visite ultérieure à Flint, alors en crise et en plein débat politique suite à l'éclatement du scandale. Le prétexte, cette semaine, c'est une lettre adressée au chef de l'État par une fillette de 8 ans à Mariana Copeny, où elle a demandé au président de le rencontrer. Monsieur Obama doit s'arrêter dans un centre de dons alimentaires, prendre part à une table ronde sur la crise, rencontrer le gouverneur du Michigan, Rick Snyder, et le maire de Flint, Karen Weaver. Selon la Maison-Blanche, il prendra aussi la parole devant un groupe d'environ 1000 personnes dans un lycée de la ville.
Et pour terminer, le général américain Curtis Caparotti prend aujourd'hui le commandement des troupes de l'OTAN en Europe, au moment où l'Alliance a entamé un renforcement militaire sans précédent sur fond de regain de tension avec la Russie. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. All right.